שלום לכולם, שלום שלום, מועדים לשמחה. Alors, est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Oui, oui, non, non. Est-ce qu'on m'entend, Houston? C'est vrai, je ne comprends pas le français. Yofi! Yofi, très bien. Eh bien, les amis, Moadim le Simcha, shalom à tous. Et on se retrouve pour une petite étude pendant ce Chol HaMoed Sukkot. Voilà, petite étude Chol HaMoed Sukkot. Alors, pour des raisons de connexion, je voulais faire le cours dans la Souka, mais bon, finalement, ça connecte pas très bien dans la Souka. Donc, ça sera dans la chambre de mes enfants, comme d'hab, j'ai envie de te dire. Donc voilà, Moadim le Simcha, j'attends juste un signe de la Midrashet Yehuda qu'on peut commencer. Si on me dit « Ok », alors je commence. Voilà, donc s'il y a un des patrons qui veut me dire « On y va », eh bien, on y va. Oui, oui, non, non. J'ai le OK. J'ai le OK pour y aller en régie. C'est bon? Oui, non, non, oui. Eh oui, Souka en 5G, mais pas encore. Pas encore la 5G. Hein, ça sera après le corona, la 5G. Mala azot. Donc, on va dire qu'on peut y aller. Yala, yala, c'est parti. Donc, Moadim le Simcha à tous. On est parti pour une petite étude, donc, sur le livre de Kohelet. Et voilà. Alors, venez, on va remettre un tout petit peu les choses à leur place avant même de commencer. Avant même de commencer, j'ai dit comme titre pour le livre de Kohelet, j'ai dit « Kohelet serait-il un livre ashkénaze ?» Alors, je pense que c'est clair pour tout le monde que je ne pose pas la question au sens propre, c'est-à-dire je ne me pose pas la question de savoir est-ce qu'un Ashkenaz a écrit Kohelet. Absolument pas. Je sais qui a écrit Kohelet. Kohelet, c'est un livre qui a été écrit par Shlomo HaMelech, par le roi Salomon. Le roi Salomon n'était ni Ashkenaz ni Sepharad, bien évidemment. On parle d'Ashkenazim plus minus, plus ou moins à partir du Xe siècle, même s'il y avait des communautés, il y avait des traces de juifs avant, mais bon, on va parler de communautés à partir du Xe siècle. Il est évident que Shlomo, c'est à peu près 2000 ans avant. Donc, évidemment que ma question n'était pas une question d'ordre historique, de savoir est-ce que c'est un livre ashkénaze, mais plus de savoir est-ce que c'est un livre ashkénaze au sens rasratique du mot. Je vais essayer de me faire comprendre. Les Ashkenazim ont pris l'habitude de lire le livre de Kohelet durant Sukkot. Alors, en général, durant le Shabbat Chol HaMoed, là, cette année, c'est tombé le premier jour également de Yom Tov, mais l'homme échané Kolkar, on a l'habitude de lire Kohelet durant la fête de Sukkot. En fait, on lit les Megillot chez les Ashkenazim en fonction des périodes. C'est-à-dire que si les Sfaradim, eux, ils vont lire Shir HaShirim tous les Shabbats, nous, on va le lire que à Pessah, Chol HaMoed Pessah. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on avait fait un cours à Chol HaMoed Pessah il y a 6 mois de cela, on était au tout début du corona. Et donc, on avait fait un cours sur Shir HaShirim. Le livre de Ruth, évidemment, sera lu par tout le monde à Shavuot, bien sûr. Le livre de Eicha, Ken Megillat Eicha, sera lu, évidemment, quand? À Tisha B'Av, bien sûr, par tout le monde. Le livre de Kohelet, donc, quant à lui, sera lu, eh bien, pendant la fête de Sukkot. Ok, Esther, évidemment, à Purim, par tout le monde. Donc, Kohelet, est-ce que c'est un livre ashkénaz parce que les Ashkenazim ont l'habitude de le lire, ou est-ce que c'est un livre ashkénazi parce que il est super rasratique? Il est extrêmement, semble-t-il, tourné vers le pessimisme. Et en fait, ce qu'on va essayer de faire ensemble, c'est d'essayer de comprendre le fil conducteur du livre de Kohelet pour se rendre compte qu'en fait, il n'est pas du tout ce qu'il paraît. Il va falloir qu'on rentre dans les versets de Kohelet pour bien savoir de quoi il s'agit. Maintenant, simplement, je tiens à dire que c'est un problème, a priori, de lire Kohelet à la synagogue pendant Soukhot, parce que, d'après la halakha, nous n'avons pas le droit de dormir même une shnat arai, c'est-à-dire une petite sieste, michutz la soukha. Or, vu que le Sefer Kohelet, c'est 12 prakim qui sont quand même assez durs à encaisser, il est possible que si le lecteur n'est pas un très bon lecteur, les gens s'endorment sur leur texte, ce qui serait interdit. Donc peut-être que c'est pour ça que certains juifs ont décidé qu'il ne fallait pas lire Kohelet à Sukkot, mais nous, on va quand même y aller. Alors allons-y, c'est parti, Kohelet. On rentre dans le vif du sujet, je prends mon Tanakh, et c'est parti, Kohelet, Perek, Aleph. Vous allez voir, donc on a dit, il y a 12 chapitres à ce livre de Kohelet, et en fait, les 12 sont évidemment liés, et il y a une volonté globale de comprendre que, alors qu'on pourrait penser que rien n'a d'importance, eh bien, on terminera sur une phrase qui nous dira qu'en vérité, c'est le monde entier qui est important. Alors venez, sans trop d'introduction, rentrons dans le vif du sujet. Divrei Kohelet ben David Melech Birushalayim. Voici donc les paroles de Shlomo ben David Asher Malach Birushalayim. Alors, on pourrait se dire, c'est pas forcément Shlomo. Il y en a d'autres des fils de David qui ont régné à Jérusalem, par exemple Avshalom ou Adonia. Mais dans la mesure où ni Avshalom ni Adonia n'étaient prophètes, et que le seul des enfants de David dont on sait qu'il était prophète et que donc son livre est rentré dans le Tanakh, eh bien c'est bel et bien Shlomo. Donc, que Shlomo va-t-il nous enseigner ? Divrei Kohelet ben David Melech Birushalayim. Hevel Havalim Amar Kohelet. Hevel Havalim Akol Havel. Voilà comment il ouvre son livre. Tout n'est que Hevel. Et c'est là qu'on pourrait penser qu'il s'agit ici d'une proclamation claire et évidente que rien n'a de valeur. Et c'est une terrible erreur. Car il est vrai que Hevel Havalim Akol Havel, mais lo Akol Kloum. La notion de Hevel, et on l'a déjà expliqué maintes fois ici ensemble, la notion de Hevel Havalim, ça ne veut pas dire ça ne vaut rien. Absolument pas. Hevel, comme on le sait, c'est la définition, enfin c'est la traduction du mot la fumée, ou du moins l'air qui sort de ma bouche. Hevel pi, hevel pe. Hevel Havalim, c'est le qu'on n'a évidemment pas le droit de faire en temps de corona. Voilà, mon ordinateur vient de choper le corona, là, évidemment. Je viens de lui souffler dessus sans masque, forcément. Donc, Hevel Havalim. Mazé. Hevel, on l'a déjà expliqué plein de fois, et je vais le redire ici, car ça vient également de Shlomo HaMelech, puisque on peut le retrouver dans un autre texte de Shlomo, le fameux texte de Eshet Chayil. Et dans ce texte d'Eshet Chayil, eh bien, Shlomo termine en disant « Sheker achen vehevel ayofi, isha yirat Hashem ititalal. » Que veut dire Shlomo lorsqu'il rédige cette chanson extraordinaire que je précise, bien que je l'ai déjà expliqué, cette chanson n'est pas pour sa femme, mais elle est bien pour sa mère, évidemment. Mais qu'est-ce qu'il veut dire ? Sheker achen. Achen, ce qu'on dit en français comme étant la grâce, vient du terme français gratuit. Comme chen, qui vient du mot chinam. En d'autres termes, chen, ça ne mérite pas son rang. Quelque chose qui est beau, il est beau. Vous allez me dire, non, les goûts et les couleurs, c'est dans la nature, on peut pas... Non. En fonction des époques, il y a des codes et des critères de beauté qui sont un consensus. Oui, tu peux avoir, toi, un autre avis, bien sûr. Mais dans une génération donnée, dans une période donnée, eh bien, les critères de ce qui est considéré par la majorité comme étant beau, eh bien, ce sont les mêmes critères chez tout le monde. En d'autres termes, vous pouvez voir que, eh bien, aujourd'hui, au XXIe siècle, les critères de beauté, c'est limite l'anorexie. Alors que si vous regardez il y a 200 ans, les critères de beauté, c'était des gens un petit peu plus pleins, plus ronds qu'aujourd'hui. C'est des valeurs qui changent en fonction du temps, certes, mais dans une époque donnée, elles sont, oui, objectives. Et donc, on te dit, à beauté, c'est à beauté. À Sheker Zachen. Le mensonge, c'est dans ce qui est la grâce. C'est-à-dire, c'est pas beau. C'est pas beau quand tu dis d'une personne qu'elle est charmante, ça veut dire qu'elle n'est pas belle. Eh oui, demande à tous les jeunes. Si elle était belle, tu dirais elle est belle. Donc, Sheker Behemet Achen. Avala Yofi, la beauté, Shlomo ne nous dit pas que c'est Sheker, car ça ne l'est pas. Ze Hevel. Hevel, à savoir, eh bien, la fumée. La fumée qui sort de la casserole. En d'autres termes, s'il y a fumée, on dit il n'y a pas de fumée sans feu. Mais je dirais mieux, il n'y a pas de fumée sans truc qui cuit à l'intérieur de la casserole. Parce que s'il n'y a pas de truc qui cuit à l'intérieur de la casserole et que tu mets la casserole sur le feu, il n'y aura pas de fumée. Bon, elle va exploser la casserole à un moment donné, mais il n'y aura pas de fumée. S'il y a fumée, c'est parce qu'il y a quelque chose qui cuit. En d'autres termes, la fumée n'est que l'expression extérieure de ce qu'il y a à l'intérieur. À Yofi, c'est l'expression extérieure de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pour ça que dans le Tanakh, eh bien, on va nous expliquer de plusieurs personnages qu'ils étaient beaux. Ça vient de nous dire qu'ils étaient tzadikim à l'intérieur également. En bataille, dans notre histoire, nous dit Kohelet, Hevel Avalim, Amar Kohelet, Hevel Avalim, Akol, Havel. Toutes les expressions de son monde, de ce monde, ne sont que des expressions extérieures de quelque chose qui est beaucoup plus profond. En fait, le message de Shlomo est fondamental. Shlomo nous dit, tu pourrais voir le monde comme superficiel et ne t'intéresser qu'à la surface des choses. Mais en vérité, non. Car « akol hevel », tout n'est que l'expression extérieure de quelque chose de beaucoup plus profond qui s'y cache. Et il va falloir aller chercher qu'est-ce qui s'y cache. Et tout le livre de Kohelet va être mis à cette disposition. Trouver qu'est-ce qui se cache derrière cette expression, semble-t-il, superficielle du monde, mais qui ne l'est absolument pas. Entre parenthèses, digression, mais c'est exactement ce que nous devons faire durant cette période du corona. On peut se limiter à l'effet extérieur du corona qui nous saoule tous. Ouais, on peut également aller chercher, peut-être pas trouver forcément, mais aller chercher du moins, les expressions intérieures de qu'est-ce que ça doit nous apprendre. Qu'est-ce qui peut se cacher derrière le corona, par exemple? Eh bien, je ne vais pas te donner toutes les infos parce que je ne les ai pas, mais je peux te dire ce que moi j'en comprends, j'en ressors. D'abord, un retour à la famille. Un retour à la famille. On est confiné avec nos proches, c'est peut-être pour réapprendre qu'est-ce que ça veut dire être avec nos proches. Combien de fois, avant le corona, on avait le temps de se poser avec nos enfants, avec notre conjoint, et pas être tout le temps en train de courir partout. Prenons un exemple. Le cours, ici. Le cours, que ce soit clair, je préfère les cours en live, chair et en os. Et je prie pour qu'un jour, vite, on puisse se retrouver à Midrashet Manitou en chair et en os, évidemment. Mais, viens, prenons l'exemple de ce cours. Ce cours qui est censé être entre 6h et 7h. Si c'est à Midrashet Manitou, bah pour moi, le cours, il commence déjà à 6h moins 20. Et il se terminera vers 7h20, 7h30, le temps que je rentre à la maison. J'ai gagné pratiquement 45 minutes en faisant le cours par Zoom. Et bien, ces 45 minutes d'avant, d'après, je les passerai avec ma famille. Donc, ça peut être une chose qu'on a appris du corona. Réapprendre la valeur de la famille. Deuxièmement, réapprendre la valeur de mon identité personnelle. Je suis des fois même en bidoude, tout seul, sans mes proches. Je peux enfin faire un travail d'introspection sur moi-même, réapprendre qui je suis. Chose que je n'avais pas le temps de faire avec la folie de la course que j'avais avant. Les nations se sont retrouvées face à elles-mêmes. Les frontières sont fermées. Qu'est-ce qu'on va décider d'en faire de ce temps passé entre nous? Et ainsi de suite, il y a pas mal de choses qu'on peut apprendre de cette période-là. Donc nous dit Shlomo HaMelech, Akol Hevel. Tov, d'accord, c'est-à-dire Akol Hevel, ça c'est dans le deuxième verset. Je veux bien, mais ça veut dire que tu dis que tout doit avoir de l'importance. Le problème, c'est que je peux être submergé de tout ce qui se passe dans ce monde. Il y a tellement de choses. Et pendant tout le premier chapitre, Shlomo va faire la liste. Il a dit, ve'en chadash tachat ha-shamesh, ve'kol ha-nechalim olchim el ha-yam, ve'ayam enino maleh. Je regarde tout ce qui est autour de moi. Je peux apprendre de tellement de choses. C'est trop. C'est trop. Et c'est pour ça que Shlomo vient et termine le premier chapitre en nous disant Kirbe rov chokhma rov kas. Ken, il te dit il faut faire preuve de chokhma pour apprendre de tout ça. Mais le problème, c'est que Kirbe rov chokhma rov kas. Parce que plus j'apprends, plus je dévoile des vérités, plus je comprends que d'autres se trompent. Ça peut m'amener à cette casse terrible. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a une recrudescence de la Sina dans certains milieux du peuple juif. Parce que chacun est persuadé d'avoir la vérité. Et donc pense que l'autre le met en danger le monde entier. Bon, ça c'est pas un problème de Mossif Rochma, hein, c'est un problème de juste Yosif Kass. Mais il te dit, Mossif Rochma, Mossif Kass. Yosif Dat, Yosif Mahov. Et celui qui rajoute de la date, c'est pas seulement des connaissances, mais ces connaissances, il les a fait siennes, il rajoute du kev, de la douleur. Pourquoi? Parce qu'il voit autour de lui, tous les gens qui n'ont pas intégré cela. Et ça peut le rendre déprimé. Seulement, vient à la rescousse, si je puis dire, de Shlomo, le rabbi Menachem Mendel de Kotsk, qui disait dans son commentaire de la Torah, à la pasuk azé, Yosif Dat, Yosif Chochma, Yosif Kass, Yosif Dat, Yosif Machov, dit le Rebbe le Kotzker, il dit, Mazma, Shelo Yosif, qu'on arrête d'étudier, qu'on arrête la Chochma, qu'on arrête le Dat. Non, Yosif Dat, Yosif Machov, Rak chez Yosif. C'est le Kotzker que Dieu continue à nous donner. C'est-à-dire, on gérera, c'est dur à gérer, on gérera. Mais qu'il n'arrête pas la chefa. Il y a tellement de choses autour de moi, je ne veux pas me retrouver dans une salle vide. Je veux qu'il y ait tout le temps des choses à évaluer et à étudier. Ce sera filmé quand même en Midrashet pour ceux qui sont en dehors de Eretz Israël. Mais bien sûr, ne t'en fais pas Patrick, on continuera le filmage. Quoi qu'il en soit, donc le premier chapitre de Kohelet vient nous dire, sache qu'il y a finalement une importance à tout ce qui se passe dans ce monde et tu as maintenant la responsabilité de pénétrer à l'intérieur de tout ce que tu vois pour essayer d'en comprendre le sens profond. Ce qui nous amène au deuxième chapitre de Kohelet. Et ce deuxième chapitre, eh bien, va essayer de nous donner un petit peu plus de perspective. Parce que si je veux pouvoir faire ce que Shlomo m'a demandé dans le premier chapitre, à savoir, sache que tout a de l'importance et c'est à toi de commencer à t'immerger pour étudier et comprendre la profondeur, eh bien, dans ce deuxième chapitre, nous dit Shlomo, ok, mais il y a une condition sine qua non pour que tu puisses, bichlal, commencer à réaliser le projet du premier chapitre, à savoir, Echacham Einav Berosho. Je suis au chapitre 2, au verset Yud-Dalet. « Et chacham enav berosho, vaksil bechoshech olech, yadati gamani, shemikre echad yikre et kulam. » Si tu veux être chacham, il faut que tu aies « einecha beroshcha ». Il faut que tu aies, comme on dit en français, les yeux en face des trous. Ça paraît pas shoot, mais c'est tellement, tellement nachon. Il faut savoir regarder. Tellement souvent, la metziout, on la voit, mais on la regarde, c'est vraiment, on ne la voit pas. On ne comprend pas ce qui est sous nos yeux. Nous dit, Shlomo HaMelech, Achacham Einav Berosho, Aksil, Olech Bachosher. Le débile, il va les yeux fermés. On dit, d'ailleurs, allez, les yeux fermés, c'est pas... Enfin, toute cette expression, elle vient d'ici, hein, c'est le français, il a copié. Mais vous comprenez que quand on nous dit, Eizehu Chacham. Alors, vous savez, il y a Eizehu Chacham, Alomed Mikol Adam. C'est Nachon, qui est le sage, celui qui apprend de tous. Mais il y a cette autre phrase qui est fantastique, qui dit Eizehu Chacham, Haroé et Anolad. Le sage, c'est celui qui est capable de voir ce qui va naître. Pas seulement concrètement, même s'il y a quand même ça. Vous savez que Yochevet et Myriam sont appelés dans le Talmud Achachamot. Yochevet et Myriam, qui étaient les accoucheuses en Égypte, sont appelés dans le Talmud Chachamot. Vous me croyez ou pas? c'est la, tout simplement la, la raison étymologique du terme sage-femme en français. Les chachamot. Ezeu chacham, aroet anolad. De là est devenu le terme de sage-femme. Bon, il n'y a pas que au niveau purement maternité. Il y a évidemment celui qui est capable de voir un petit peu plus loin que le bout de son nez, qui est capable de prévoir. Il ne s'agit pas ici d'être prophète, mais il s'agit de se dire que si jamais tu es ashkénaze, prenons un cas purement théorique qui ne me concerne pas, tu es ashkénaze et tu as la peau de couleur assez blanche, blanchâtre, et que tu es au mois d'août et que tu es à la plage, évidemment, c'est pareil, bien sûr. Eh bien, il faut que tu sois un tout petit peu chacham, aroet anolad, que si tu mets pas de crème solaire ou pas de t-shirt, tu vas devenir une tomate. C'est pas de la prophétie. C'est être un tout petit peu im enav berosho. En d'autres termes, ezeu chacham, celui qui a la capacité de voir un petit peu plus loin que le bout de son nez. Mais il y a une autre signification. Chachmei Israël, Sanhedrin, Anshei Knesset Hagedola, sont appelés dans la Torah Eine Haeda. Les Chachamim, les Rabbanim, nos sages, sont appelés dans la Torah les yeux de l'assemblée. Me dit justement Ameler, tu veux avoir un peu de Chochmat Chaim, Einecha doivent être Barosh Shelcha. Alors c'est, comme on a dit, mes yeux à moi, voir un petit peu plus loin que le bout de son nez, bien sûr, mais avoir aussi la vision de nos sages devant nos yeux. Il y avait une explication du Rav Rotenberg de Paris qui disait à propos du premier verset de la Torah, « Reshit bara Elohim tashamayim et haaretz » Az Rashi nous dit « En amikra azeh la omer dorsheni kemo shedarshu chazal » Et le Rav Rotenberg mettait le point à cet endroit-là. D'habitude, Rashi ne met pas le point à cet endroit-là. Il dit « En amikra azeh omer dorsheni » cette phrase demande à être expliquée. Et ensuite, point, que Moshe d'Arshu Chazal, ainsi qu'ont expliqué nos sages. Et ils ont expliqué 1, 2, 3, 4, 5. Rav Rotenberg, il disait, il faut dire, En amikra azé omer el adorsheni que Moshe d'Arshu Chazal. Tu veux comprendre cette Torah, il faut que tu aies devant tes yeux la vision de nos sages. En d'autres termes, une vision juif aux juives de la réalité te permettra de la comprendre avec tes yeux. Après, évidemment qu'il faudra aussi t'ouvrir aux visions des autres pour aiguiser ta compréhension. Mais d'abord, il faut que tu aies ta propre compréhension, celle de ton identité. Nous dit Shlomo, tu veux pouvoir comprendre ce qu'il y a comme importance dans chaque chose de la réalité, mais tsuyan. Mais pour ça, il faut que tu aies une vision un petit peu plus globale que simplement maintenant et ici. Nos sages ont une vision globale de l'histoire. Et c'est pour ça que Shlomo va terminer son second chapitre en donnant un verset incroyable. Parce que ceux qui ont compris le premier chapitre comme étant rien n'a d'importance, bah ça marche pas. Parce que tu arrives tout simplement et à la fin, et à la fin, sera du premier, du deuxième chapitre. Et on te dit quoi? On te dit, bah alors voilà, très bien, pas de problème. Je lis le verset, Kafav, qu'il a Adam chez Tov le Fanav, Nathan Chochma, Vedad, Vesimcha. ולחותה נתן, נתן עניין לאסוף ולכנוס, לתת לטוב לפני האלולים, גם זה הבל רות רוח. זה יתודי, Dieu il a de quoi rendre au tzadik et de quoi rendre au rasha. וגם זה הבל. C'est-à-dire que גם זה, c'est l'expression extérieure de quelque chose. C'est-à-dire que Dieu il a une vision globale. Si tu veux toi aussi pouvoir avoir une perception juste de la réalité, il te faut une vision globale. Global. Donc, je reprends. Le monde est important. Toute chose dans ce monde est importante. Pour pouvoir le comprendre, eh bien, il faut pouvoir les replacer, toutes ces choses-là, dans un contexte général et global. Et c'est ce qui nous permet d'arriver au troisième chapitre. Le troisième chapitre, alors là, plus clair que ça, tu meurs. L'école, la colzman veut être l'école chefetz tachat hashamayim. Point. Alors là, c'est clair. Celui qui voulait comprendre les deux premiers chapitres comme étant rien d'important, il peut pas arriver là. Parce que là, on te dit clairement, l'école Zman veleket, l'école Chefetz tachat Hashamayim. Chaque chose en son temps, comme on dit en français, mais chaque chose a un temps. C'est-à-dire que chaque époque a son importance. Vous comprenez donc qu'il va falloir avoir une vision générale. Cette vision générale, je la garde. Vous me permettrez de garder le troisième chapitre, on y reviendra à la fin de notre étude. Parce qu'effectivement, Shlomo passe en revue toute l'histoire. Quand il nous dit « il y a un temps pour tout », eh bien, il va nous passer en revue toute l'histoire. Donc ça, on y reviendra à la fin de notre étude. Mais je voudrais simplement revenir sur la fin du chapitre 3, lorsque Shlomo nous dit au verset Yudalef, après avoir passé en revue toutes ces époques, il nous dit « et ta kol ?» Attends, si on sait que Dor Hapalaga est revenu dans notre époque, on voit ce qu'on a dans notre œil. Oui, mais qui a dit que Dor Hapalaga est revenu à notre époque? Ça, je ne sais pas. Je ne pense pas vraiment que Dor Hapalaga soit revenu à notre époque. Moi, je dirais plus que Dor Hapalaga est venu Beitziat Mitzrayim. Mais ça sera le sujet de mon cours de demain soir dans la veillée de Shavuot. Donc voilà, tu dis le Rav Dinovitch, j'ai dit c'est Dor Hapalaga aujourd'hui. Top, je ne vais pas contredire le Rav Dinovitch, loin de moi l'idée. Donc je n'ai pas entendu le cours, donc je ne peux pas savoir ce qu'il a expliqué là-bas. Est-ce que c'était simplement par allusion ou il pense vraiment qu'on est le Gilgoul du Dor Hapalaga? Ça faut voir. Si c'est par allusion qu'on est une génération où effectivement on se dispute pas mal, je suis pas loin d'être d'accord, même si on a quand même des nécoudotes dehors à ce niveau-là. Donc, je vais pas, de toute façon, je peux pas contredire un cours que je n'ai pas entendu. Donc, quoi qu'il en soit, je reviendrai à la fin du cours sur ces différents itim. Et donc, nous dit Kohelet, et ta kol asayafe beitom, gam et ta olam natan belibam, mibli asher lo imsa adam, et ta maase asher asa elohim mirosh ve'atsof. Et là, le Rav, et le Rav, Shlomo HaMelech est clair. Il te dit, gam et ta olam natan belibam. Attention, olam dans le langage du Tanakh, ce n'est pas olam dans le langage des Chachamim et le nôtre. Olam aujourd'hui, ça veut dire le monde, le cosmos. C'est une dimension spatiale. Alors que dans le Tanakh, la notion de olam, c'est le olam va'ed, c'est l'éternité, c'est une notion temporelle. C'est-à-dire que nous dit Kohelet, Dieu nous a donné, vegam et ta olam natan belibam. C'est-à-dire que toute cette histoire doit s'inscrire dans une éternité, dans un contexte global. Et c'est pour ça que, on nous dit, Mibli asher lo imta adam et amaase asher asa Elohim mirosh ve'atsof. L'homme, il n'arrive pas forcément toujours à voir un Kadosh Baruch Hu, il sait qu'est-ce qu'il y a mirosh ve'atsof. Et donc, une fois qu'on a dit cela, eh bien, Rabotai, on va pouvoir, ok, j'ai compris, le monde a un intérêt. Pour pouvoir comprendre l'intérêt de chaque chose dans le monde, il faut que j'ai une vision globale. Et le troisième chapitre va me donner cette vision globale. J'ai dit, j'y reviendrai. Très bien. Alors, allons-y. Commençons à rentrer dedans. Oui, Nachon. Mais pour ça, pour avoir cette vision globale, il n'y a pas 36 solutions, mon ami. Il faut que tu étudies la Torah. Il faut que tu étudies la Torah, on a dit, avec la perspective de nos sages. Et c'est pour ça que nous dit ce chapitre 4 de Kohelet, au verset 9. Tovim ashnaim min ha'echad, asher yesh lahem sachar tov be'amalam. Dit la Gemara dans Maseret Chagiga, o chavruta, o mituta. En d'autres termes, si tu étudies la Torah tout seul, zeshum davar. Zeshum davar parce que rien ne t'empêche de te tromper. Le fait que ta chavruta, elle te contredise, elle dit, moi je pense pas comme ça, je pense pas comme ça, ça permet à une vraie Torah de sortir de l'étude en binôme. C'est pour ça que la chavruta est tellement importante. Qu'elle soit par Zoom pour le moment ou pas par Zoom, la chavruta est essentielle. Alors, c'est vrai que le Rav Soloveitchik, il disait que quand il étudie avec ses sfarim, eh ben, en fait, il est en chavruta avec le Rambam, avec le Rabbi Yosef Karo. Il y a fait. Il faut avoir une vraie chavruta. Il faut avoir une chavruta. Kne lecha chaver. Achète-lui des chocolats, je sais pas ce que tu veux. Il faut avoir une chavruta pour que ensemble, tov asachar shebe amalam. C'est quoi amalam? Moi aussi, quand je suis tout seul, anim amel batorah. Lo, avashav anim kula anim shtaim. Donc, amal qu'on a tous les deux, c'est de se contredire. Arrête, maze chavruta. Chavruta en araméen, on appelle ça, bon, chavruta c'est déjà l'araméen, mais on appelle ça bar plukta. Ba la machloket. Mazé Bar Plukta, c'est la personne avec qui je suis en machloket. Eh oui, une chavruta qui pense comme toi tout le temps, ça ne sert à rien. Rabbi Yochanan était la chavruta de Resh Lakish. Ils se contredisaient tout le temps. Quand Resh Lakish est mort, Rabbi Yochanan était déprimé complètement. On lui a amené une autre chavruta, Rabbi Lazar. Le seul problème, c'est qu'à chaque fois que Rabbi Yochanan disait un truc, Rabbi Lazar expliquait pourquoi il avait raison. Il a dit, mais j'en peux plus, j'ai pas besoin de toi pour ça. J'ai pas besoin de quelqu'un qui me dise que j'ai raison. Chavruta, c'est quelqu'un qui te contredit. Et donc, la amal de votre interaction permet d'avoir une vision qui est celle de la Torah. Et ensuite, finalement, eh bien, Shlomo nous dira, Shemor raglecha ka'asher telech el bet ha'elohim וקרוב לשמוע מיתת הכסילים זבח, כי אינם יודעים לעשות רע. יודעי שלמה המלך, הכל בסדר. בסדר. אבל, סאו כתופו פינלמו עברת וריטב לחברותה, טוב השניים מן האחד, השניים מן האחד זה בבית המקדש. לא סכתובה בבית המקדש, אתה רואה את פני השם. אתה רואה את פני השם, tu vois הקדוש ברוך הוא, parce que ça veut dire. Ça veut rien dire, mais ça veut tout dire. Et donc finalement, la chavruta par excellence, c'est lorsque בחג הסוכות, t'es pas confiné, mais tu peux aller au בית המקדש. נכון. Se faire un rav, c'est gratuit, alors que le chaver, c'est payant. Eh ben oui, évidemment, le rav, c'est gratuit, parce que le rav, la Torah, elle est pas à lui. La Torah, il l'a reçue de ses maîtres, et il doit la transmettre. Donc c'est normal qu'il ne fasse pas payer. Ah oui, tu le payes pour le temps qu'il a pris, tu le payes pour le temps qu'il a fait pour préparer le chiot, machin. Mais pas pour le fait de te transmettre un enseignement. Bien sûr que non. Et le chaver, bah oui, parce qu'il pourrait ne pas vouloir étudier avec toi. Donc faut lui donner envie d'étudier avec toi. Ça vaut le coup d'étudier avec moi. À chaque fois qu'on finit une maserhet, je t'offre le resto. Ça vaut le coup. Ça va. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, lui aussi, il doit te payer. Parce que lui aussi, t'es son chaver. Et donc, c'est un coup toi le resto, un coup c'est lui. Et comme ça, comme top. Bekitso, donc on a dit, j'ai compris qu'il fallait avoir une grande vision globale sur le monde. Pour cela, il faut comprendre que toute l'histoire s'imbrique l'une dans l'autre. Où est-ce que je vais pouvoir le comprendre? Belimud à Torah, Bessi, au Bet Amigdash. Tov, il y a Femur, donc là je suis bon. Il n'y a pas de problème. Oui, mais... Le problème, c'est qu'il y a une réalité. Une fois que j'ai appris tout ça, je me dis, bah, alors finalement, à Kol Tov. Sauf que je ne peux pas faire abstraction, et c'est là le propre du chapitre 5. Je ne peux pas faire abstraction au fait qu'il y a dans ce monde des problèmes. Yeshra Ba'olam. C'est pour ça qu'il nous dit dans le chapitre 5, verset Yudbet, Yeshra Chola Ra'iti, Ra'a Chola Ra'iti, Tachat HaShemesh. Osher shamur li ba'alav le ra'ato. En fait, Shlomo ici précède la question de Rabbi Akiva, qui en fait est la question de Moshe, donc il ne le précède pas. Il te dit, ma yesh tzadik veralo. Yesh rabe emet ba'olam. Ma ze tzarich liot. En fait, Shlomo ici, je peux le dire, précède les paroles de Yishayahu Hanavi, qui nous dit, Ani Hashem bore et yotzer or slicha. Ou borera, ani Hashem osé kol ele. Ara, sheba metziut. Le ra, le mal qu'il y a dans ce monde. Gamhu, met Hashem. Lui aussi, il vient d'Akadosh Baruch Hu. Le fait de savoir que le mal vient de Dieu fait qu'on peut se replonger dans les paroles de Nahum Ish Gamzu, qui nous dit Gamzu le tova. Non pas Gamzu tova, chas veshalom, parce que quand c'est mal, c'est mal. Avalze le tova. Et donc ainsi, eh bien, on peut terminer le cinquième chapitre en disant, eh bien, iné asher ha'iti ani tov asher yafe le'echol ve'lishtot ve'lirot tova bechol amalo she'yamol tachat ha'shamesh mispar yemei chayav asher natan lo ha'elohim ki hu chelko. Donc, j'ai compris, le mal, il fait partie également du contrôle d'Akadosh Baruch Hu. Je n'arrive pas forcément tout de suite à le voir et à le ressentir. Aval, il est là. Le mal, il est partie intégrante de l'enseignement d'Akadosh Baruch Hu. Mais le bien aussi à ce moment-là. Eh oui, le bien aussi à ce moment-là. Et donc, si le bien aussi fait partie de l'enseignement d'Akadosh Baruch Hu, Rabotai. Et bien, alors, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut dire quelque chose de fondamental. Ça veut dire que ben, c'est bien de faire le bien et d'avoir du bien. Parce que je m'attache à Akadosh Baruch Hu, c'est pas seulement que je kiffe. C'est que je m'attache à Dieu. Rappelez-vous Rabbi Akiva, qui voit ce choual yotze mi bet kotche akodashim, ken, et qui se dit, attends, et il se met à rire. Et ses amis lui disent, mais attends, pourquoi tu ris? Il dit, ben, comme vous. La raison qui fait que vous, vous pleurez, c'est la raison qui fait que moi, je ris. Oui, je range le sadine du lit de mon fils, bien sûr. Parce que je me dis, c'est pas joli, tu vois. Les gens, ils regardent et tout. Lorsque les gens, ils pleurent, ils disent, mais pourquoi tu ris? Et Rabbi Akiva leur dit, mais c'est la même raison pour laquelle je ris que vous, vous pleurez. Vous pleurez parce qu'il y a marqué dans les Nevuot de Jérémie que « Shualim il Chouban ». Et ça se réalise parce qu'on voit des renards. Mais si les Nevuot de mal se réalisent, donc les Nevuot de bien aussi, elles vont se réaliser. Donc si le mal, il est dans la Shlita d'Akadosh Baruch Hu, le bien aussi. Donc ça veut dire que je n'ai plus besoin de culpabiliser quand je kiffe. Lara, yesh patron, vegam la tov, yesh patron. Ki Hashem ou chelko. C'est-à-dire quoi ça? Regardez. Je reprends le verset. Le verset Yudzain. Ine asher ha'iti ani tov asher yafeh le'echol ve'lishtot ve'lirot tova bechol amalo she'amal tachat ha'shamesh mispar yemei chayav asher natan lo ha'elohim ki hu chelko. Mi ze hu? Mi ze chazal? Ze ha'tov. Ha'tov ze ha'chelek she'akadosh baruch hu mitgale bo. C'est la partie dans laquelle Dieu se dévoile. Nous, à Beseder, Tov Beseder, si on en est là, si on a compris qu'il me fallait donc une vision globale sur le monde, qu'il me fallait pour cela une vision de la Torah, une vision de nos sages, de notre tradition, à Kol Beseder, Nachon, Nachon, à Kol Beseder, à Ra Yeshto Tafkid, à Tov Yeshto Tafkid, bonjour Alel. Mais comment est-ce qu'on y arrive? Comment est-ce qu'on y arrive? Eh bien, pour cela, on rentre dans le chapitre Vav. Dans le chapitre Vav, on dit « Ma she'aya kvar nikra shemo, venoda asheru ha'adam velo yochal ladin im shetakif mimeno. » Nous dit ici, Shlomo, Rotaï, « Ma she'aya, aya. » C'est-à-dire quoi? On t'a dit qu'il fallait avoir une perspective sur le long terme. Vadaï. Mais le travers de ça, le danger de cela, bonjour Sira. Tu dis bonjour à tout le monde. Les Kitsour, le danger de cela, c'est quoi le danger? Eh bien, le danger, c'est de se concentrer uniquement sur ce qui s'est passé et de vivre dans le passé. De vivre dans le passé. Et ça, c'est un vrai problème. Parce qu'à ce moment-là, tu es bloqué dans ce qui s'est passé. C'est-à-dire tu dois l'intégrer, tu dois l'étudier, tu dois en tirer des enseignements, mais tu ne peux pas vivre dedans. Bien sûr que le judaïsme de Pologne de il y a 300 ans était important, était fondamental, était central, et aujourd'hui, si on veut comprendre ce que c'est Am Israël, tu as besoin de comprendre le judaïsme polonais d'il y a 300 ans. De la même façon, tu as besoin de comprendre le judaïsme d'Afrique du Nord. Bien sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, tu es obligé de t'habiller en babouche, en Shtreimel. Et c'est pour ça que termine le roi Salomon dans son chapitre 6, en disant la chose suivante, « Ki mi yodea ma tov la adam b'chaim, mispar yemei chaye evelo, v'yasem ketzel asher mi yagid la adam ma ye acharav tachat ha'shamesh. » Otay, on doit absolument comprendre une chose fondamentale. Je ne peux pas vivre dans le passé, mais je ne peux pas m'y soustraire non plus. J'avais eu une grande marloquette à l'époque avec mon père. Je suis guide en Pologne et lui me disait qu'il ne voulait pas aller en Pologne. Parce qu'il disait c'est le passé, il ne faut pas vivre dans le passé. Et il a tellement raison. Mais d'un autre côté, je lui disais mais tu ne peux pas construire ton avenir si ton passé, il n'est pas clairement établi, si tu n'as pas tiré les leçons du passé pour ne pas recommencer. Et finalement, il a accepté de venir. Et durant le voyage qu'il a fait avec moi, eh bien, finalement, il a pris la parole et il a dit, maintenant, je comprends pourquoi il faut venir. C'est justement parce que j'ai été là que je peux construire mon avenir. Véritablement. Comme disait Yigal Alon, un des fondateurs de Tzahal, un peuple qui ne connaît pas son passé, son présent est trouble et son avenir est incertain. En d'autres termes, nous dit si Shlomo HaMelech, tu veux pouvoir avoir une istakloute globale et pouvoir voir ce qui va arriver, apprends le passé. Ce passé n'est pas seulement passé. Oui, il est passé. Aval, tu dois tout en apprendre. Et donc, à ce moment-là, je suis blindé. Je peux y aller. Nachon, tu peux y aller. Mais n'oublie pas que Tov Shem Mishem En Tov Ve Yom HaMavet Mi Yom Ivaldo. Tov Shem Mishem En Tov Hashem Shelcha. C'est yoter chashuv Mehashem En Atov. Hashem En, c'est les actions que tu vas faire, puisque tu vas faire quelque chose pour sortir de l'huile, ben, l'olive, Kol Tov. Ah ben, les actions que tu fais, elles doivent s'inscrire dans quelque chose qui est toi, Hashem Shelcha. Michel Ose Akol Baseter. Vous savez, il y a une histoire qu'on raconte en Pologne, ce qui s'est passé à Cracovie, sur un homme qui était extraordinairement incroyable dans sa volonté de faire du chesed aux gens. Il s'appelait Yosele Kamsan Kadosh. Une histoire de dingue que Reb Shlomo Karlibach il raconte comme ça avec la guitare, magnifiquement. Yosele Kamsan Kadosh, il se faisait passer pour un Racha Merusha, un avare, pire que Molière. Et finalement, c'est lui qui faisait vivre toute la communauté en secret. On ne demande pas ça au peuple juif. On ne te demande pas d'être un sadique caché. On te demande d'être un sadique. Ne te cache pas. On te demande d'être un tzadik. Alors, ne venez pas me dire, non, mais il y a les tzadikim nistar. Tzadik nistar, c'est un concept de la Kabbalah. C'est pas dans la notion de mes actions du quotidien. Quand je fais une mitzvah, je dois faire une mitzvah. Et je dois pas me cacher pour la faire. Il y a aucune raison de se cacher pour la faire. Non seulement parce que j'ai pas honte, mais deux, parce qu'un héroté, la hachpia. Bevadai. Berova madrat melech. Lorsque je fais mon utilat loulav, est-ce que je me cache de ma famille ou est-ce que j'appelle ma femme, mes enfants et je leur dis, les gars, allez, c'est parti, Nitzilat Loulav, chacun son tour. Tov Shem Mishem En Tov. Et une fois que Shlomo a dit ça, alors il te dit au verset, cette fois Kafalef, qui Adam en tzadik ba'aretz asher ya'aseh tov velo yecheta. Là, c'est une phrase fantastique. Imu tzadik, echu chote. Le tzadik, il ne fait pas de faute. En tzadik ba'aretz asher ya'aseh tov velo yecheta. Donc ça veut dire bien que si les tzadiks ou lo avarian, en d'autres termes, achet shelo, ce n'est pas une avéra. Ce n'est pas une avéra. C'est par rapport à où il doit encore évoluer. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il nous dit, Shlomo? Shlomo, il nous dit quelque chose de fondamental. Shlomo, il nous dit, « Levat re'ezé » Matsati asher asa Elohim asher Adam et Adam sicha yashar vehem ma bikshu cheshbonot rabim. Dit Shlomo pour terminer son chapitre 7. Akadosh Baruch Hu a fait à Adam yashar. Adam ou yashar. Yashar ze rotze la'asot tov. Yashar c'est moral, c'est celui qui veut faire le bien. Et oui, il y a une grande machloquette entre a priori Jean-Jacques Rousseau et Sefer Bereshit. Jean-Jacques nous dit que l'homme, il est fondamentalement bon et que la société l'a perverti. Alors que nous dit le Sefer Bereshit qui est serlève à Adam ramine ou rave. Non! Nous dit le Rav Kook. Nachon! Mine ou rave, quand on dit Rashi, c'est quand il sort du ventre de sa mère. Il est balé et sera ra. Avaloulo! Ra! Ra qui est tzro! Ou ra! Ou kulo! Neshama teora, shenata tabi. En mala asot. L'homme, il est fondamentalement yachar. À Adam, l'homme, il veut faire le bien. Dit Shlomo, ouais, d'accord, mais c'est pas parce que fondamentalement tu veux faire le bien que tu dois te contenter de dire je voulais faire le bien. Non, mais je voulais bien faire. Aïkar akavana. Non, aïkar lo akavana. Aïkar amaase. C'est-à-dire que si tu voulais acheter un cadeau d'anniversaire à ta femme, et tu voulais, hein, mais tu l'as pas fait, je peux t'assurer que la kavana, elle va pas t'aider là, mon ami. Donc, Nachon, Ba'atrala, Tayachar, ça c'est built-in. Mais Shlomo te dit que tu dois également devenir tzadik. Tov, Yala, Metsuyan, j'ai compris. Pour arriver à avoir une vision globale du monde, je dois arriver, grâce à ma morale première, à être tzadik. Oui, Uria, bonjour, Uria, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez?
Le pyjama.
Non, pas maintenant. Alors, prends et va les mettre dehors. Allez, okay. Prenez. Il y a la mère, ah, la mère. Non, pourquoi tu rigoles là maintenant? Prends, donne à elle aussi. Merci beaucoup. Et bye.
Hello.
Tu vois, dès qu'on sera plus en Zoom, il n'y aura plus ces interruptions intempestives. Bekitsu Robotai. Donc on peut y aller. J'ai le plan. J'ai le plan d'attaque. Je sais comment y arriver. Nachon. Seulement pour pouvoir y arriver, on arrive au chapitre 8. Et à ce moment-là, nous dit Shlomo les choses de manière très claire. Les choses sont très très claires. Shomer mitzvah lo yeda davar ra. Vet mishpat yeda lev chacham. Nous dit Shlomo, à Madrir pour y arriver, il est pashut meod. Torah, 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 veot Torah. Pour réussir dans ce programme énorme qui nous dresse depuis 8 chapitres, tsarir, lasot, mitzvot. C'est pas compliqué, Dieu il t'a dit comment tu t'attaches à sa volonté. Sa volonté, elle est intemporelle. Sa volonté, elle dépasse les âges. Son dévoilement est depuis la création du monde jusqu'à nous. En d'autres termes, tu veux savoir comment t'attacher à ce plan général, mitzvot, iné, il n'y a pas de problème. Et donc, ça a l'air. Levadre, ze, matzati, asher, asa, elohim, etra. Je suis revenu en arrière, autant pour moi. Alors, on fait mitzvot. C'est-à-dire, shomer mitzvah lo yeda davara. C'est-à-dire. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on a dit cela, on pourrait devenir des robots de la mitzvah. On pourrait devenir des robots de la mitzvah en disant, OK, j'ai mon madrir, je sais ce qu'il faut faire, tac, 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 et je fais mes mitzvot. Shlomo, c'est celui qui a écrit chez Rachirim. Faut pas l'oublier. C'est le même Shlomo qui écrit chez Rachirim et qui écrit Kohelet. Et chez Rachirim, on en avait parlé, en ahava yoter gdola mishir Rachirim. Ve'en malasot, quand un couple est arrivé à cette dimension de ahava, j'ai pas besoin de te l'expliquer, yesh simcha. Shlomo, il te dit, tu veux faire Torah, tu dois faire Torah mitzvot, bien sûr. Aval shnia, tu ne peux pas devenir un robot de la mitzvah. Et donc finalement, Shlomo te dit, ok, mais calme-toi. Ve shibarti ani et asimcha, asher en tov la adam tarat ha-shemesh ki im le'echol ve'lishtot ve'lismoach, ve'hu yilvenu ba'amalo yemei chayav asher natan lo Elohim tarat ha-shemesh. Hakol, il faut que tu le fasses besimcha. Nous dit la Torah, Bichlal, Parashat Bechukotai, et Tra Parashat Kitavo. Pourquoi est-ce qu'on est parti en exil? Quelle est l'une de nos fautes principales? Tachat asher lo avad ta et Hashem Elohecha besimcha ou betuv levav. Simcha, Rabotai, vesamarta bechagecha, zachshav. Simcha! Quand tu fais ta mitzvah, t'es sameach! On n'en peut plus de cette vision exilique de l'âge du judaïsme où. Faire une mitzvah, c'est sérieux. C'est-à-dire, pas joyeux. C'est sérieux, bien sûr que c'est sérieux. Enfin, personne ne t'a demandé d'être pas joyeux dans ton sérieux. D'ailleurs, vous avez remarqué, dans les sept nains, il y a joyeux, il n'y a pas sérieux, il y a grincheux. Parce qu'il y a des gens que quand ils sont sérieux, ils ne sont pas sérieux, ils sont grincheux. Et tu as des mecs qui voient leur judaïsme comme ça. Genre, va leur décrocher un sourire, chaud patate. Parce que vraiment, c'est serious business, la toire et mitzvah. Simcha rabotai. Ça réclisse-moi. Quand tu fais une mitzvah, tu dois être content. Bah oui. Et donc, c'est vrai que, bagalout, faire les mitzvahs, ça nous demandait des efforts terribles. Et donc, des fois, bah, c'était aussi à des prix incroyables. Et donc, on en était un peu triste. On le faisait parce qu'on voulait le faire, tout ça. Mais bon, franchement, tu sais, je vais te dire, hein, c'est pas compliqué de toute façon. Quand tu as des rabbanim qui te disent mitzvah gedola liot besimcha tamid, Reb Nachman, ben ça veut dire que ça veut dire que les gens sont tristes. Si tu as besoin de dire en yeush baolam klal rabbeinu tzak bekol gadol אין שום ייאוש, אין שום ייאוש, אין שום ייאוש בעולם כלל. רבנו הקריא d'une voix très forte, il n'y a aucune déprime dans ce monde. Je peux t'assurer que si tu as besoin de dire un truc comme ça, c'est que les mecs, ils sont en dépression totale. Elle est complètement. Un mec qui est sa mère, tu n'as pas besoin de lui dire d'être sa mère. Pas shoot. C'est pas shoot. On dit Shlomo, mitzvah nachon, aval mitzvah besimcha. Tov, bon bah c'est bon. Zéo, yala. Maintenant que j'ai dit tout ça, je suis prêt. Maintenant que j'ai appris à regarder le monde dans sa globalité, maintenant que j'ai appris quel était mon rôle dans tout ça, maintenant que je suis dans ma Torah, dans mes mitzvot et en plus mes simcha, alors c'est bon. Ouais, mais il y a juste un truc qu'il ne faut pas oublier. Il ne faudrait pas que ce monde que tu t'as créé là maintenant, il ne soit que théorique. Il faut que tu puisses voir les fruits de cette vision-là se réaliser. Et donc Shlomo nous dit dans le 9e chapitre, il dit, ואמרתי אני טובה חוכמה מגבורה וחוכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים. דברי חכמים בנחת נשמעים ומזעקת מושל בכסילים. טובה חוכמה מכלי קרב וחוטא אחד יאבד טובה הרבה. דיש לו מהמלך, חוכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים. כסבדיה. רבותיי, זה פשוט. Tu peux avoir raison. Parce que tu as étudié, tu as bien compris, les 8 chapitres de Kohelet, ils sont mesoudarim dans ta tête. Mais mon ami, si tu es tout le temps misken, même si tu as raison, personne ne va t'écouter. C'est ce qui a marqué dans le 2e chapitre du Petit Prince. Quand tu vois l'astronome turc qui a découvert l'astéroïde B35 et qui fait une démonstration à tout le corps scientifique pour expliquer scientifiquement comment il a découvert l'astéroïde B35 ou B65, je ne me rappelle plus. Sauf qu'il le fait en babouche. Il le fait en babouche et en tarbouche. Les mecs, ils le regardent, ils se moquent de lui. Chochmat amisken bezouyaot, varavinam nishmaim. Nous dit le petit prince que l'année suivante, il a fait la même démonstration en costume trois pièces et monocle. Et tout le monde l'applaudit la folie. Tant que tu es misken, ce que tu as à dire, personne ne peut l'écouter, même si c'est vrai. Et donc, tu dois pouvoir être dans ce monde sans être misken. Am Israël, il avait quelque chose à dire. Mais pendant 2000 ans, il était misken, bagalout. Et donc, quoi qu'il ait pu avoir à dire, personne ne voulait l'écouter. Baruch HaShem, aujourd'hui, on n'est plus miskanim. Et donc, on peut faire réentendre notre voix parce qu'on a quelque chose à dire. En plus, on peut le dire. On a le clé qui nous permet de le dire. Faire la mitzvah dans la joie peut aussi servir à approcher d'autres juifs. Tout à fait. Mais bien sûr. Bien sûr. Attends, si pour toi, tous les religieux, c'est des mecs rasra, tu n'as pas envie de devenir religieux. Bien évidemment. Baruch, alors que si tu vois que pour toi, les religieux, c'est des mecs smechim, la méhadrine. Alors, t'as envie de te lier? Bah, oh, t'as raison, 100%. Tov, alors, Besséder! Donc, en gros, t'es en train de me dire, Tsarir liot l'homisken. Ouais. Dans le chapitre 9, Shlomo nous dit, Asur lecha liot misken. Tu dois être bien. Et quand tu es bien, alors tu peux dévoiler, pas que à toi, mais aux autres également, Gilouï Hachem. Au chapitre 10, quel cli? Tu as entendu parler de Médinat Israël? Tu as entendu parler de notre voix à l'ONU? Tu as entendu parler du fait que maintenant on regarde un Israël et qu'on veut apprendre de lui dans le domaine de la sécurité, du high-tech, de plein de choses? Agave, du corona aussi! Pendant toute la première vague, tout le monde nous a regardé et a appris de nous. Là, deuxième vague, on est les premiers à être reconfinés. Il faut savoir qu'en Europe, ils sont reconfinés dans un mois, ils vont aussi réapprendre. Et on a quelque chose à montrer au monde. Mais qui te sort, une fois que tu es bien, bah, tu peux faire ce que tu as vraiment à faire, à savoir dévoiler à Kadosh Baruch Hu. Et donc là, on te dit, « Ilach eretz shemalkech na'ar v'sharayir baboker yochelu, ashrech eretz shemalkech ben chorin v'sharayir bet yochelu bigvura velo bashti. » Akli, on a dit, « Am Israël chazar le'arzo. » Et donc, Shalach lachmecha, gam, j'ai sauté un verset, gam bemadaacha, melech al tekalel, ou bechadre mishkavecha al tekalel, hashir ki of hashamayim yolich et hakol, ou baal hakenafayim yagid davar. Maintenant, la voix qui porte le message d'Akadosh Baruch Hu peut être dans le monde entier. J'ai vu Là, aujourd'hui, la vidéo de Chauffard, je vous invite à aller vous abonner à Chauffard sur Facebook. J'ai vu la vidéo de Chauffard du guide d'un de mes amis et maîtres, qui s'appelle Yossi Twitou, qui nous a expliqué, cette agada qu'on raconte à tous les groupes, qui est magnifique, que Neil Armstrong, qui a marché sur la Lune, et qui a dit cette phrase, un petit pas pour l'homme, un pas de géant pour l'humanité, il a dit oui, mais en fait, les plus grands pas que j'ai jamais faits, c'est les pas qu'il avait fait sur les marches de Merkaz Davidson, Shaare Khulda, qui mène les marches qui menaient aux portes qui menaient à l'époque au Beth Amikdash, quand il est venu visiter, lui, en tant que protestant, eh bien, il était complètement imprégné des paroles de Nevi Israël, des paroles de la Torah. Alors, c'est de ça qu'on parle. Pouvoir redonner à la parole d'Akadosh Baruch Hu sa grandeur. Pour cela, ça ne suffit pas d'être bien. Il faut être grand. On a dit tout à l'heure, on ne peut plus être misken, mais ça ne suffit pas d'être seulement pas misken. Shlomo nous dit, tu dois être grand. Yesh po drisha beperek yud aleph le gadlut. Tu dois grandir, pas te satisfaire de pas être petit. Il y a une différence entre pas être petit et être grand. Et donc on nous dit au chapitre yud aleph, shalach lachmecha al penei ha'mayim ki rov ha'yamim timtsa'enu. Tu vois l'eau? En fait, tu crois qu'il y a un petit lac, mais en fait, il y a la mer, il y a l'océan, c'est énorme. Aujourd'hui, on sait, la planète, elle est tellement plus vaste sous l'eau qu'elle est sur Terre. C'est énorme, l'eau. Nahon, tu es dans l'eau, tu as l'impression d'être dans l'immensité. Dans l'immensité. D'ailleurs, à tel point qu'il y a un point, il y a un point dans la planète. Alors, attends, je vais te montrer. Ouais, parce que aujourd'hui, il y a du matériel. Il y a un point dans la planète que c'est, je crois que c'est là, Machoukazé. Voilà, un truc ici, plus ou moins ici, que quand tu es dans ce point-là, ok, la personne la plus proche de toi, elle est ni là, ni là, la personne la plus proche de toi quand tu es là, c'est l'astronaute qui est dans la Station Spatiale Internationale. Il est plus proche de toi que les mecs sur les autres continents. Pour te dire que quand tu es au milieu de l'océan, tu es face à l'immensité. Donc là, on vient te dire, Anitsarir Gadlout, énorme, c'est ça que j'ai besoin. Je ne peux pas me contenter d'être bien, je dois être grand. Et donc, nous dit ici, Shlomo, Odapam, Tedrelek le Shiva, Vegam Shmona, Kilotéda Maïera à la Haaretz. Mazet Tedrelek le Shiva, donne sa part aux 7 et aussi aux 8. Aola Mazet, Ze Yom HaShevi'i. C'est le 7e jour, on l'avait expliqué à l'approche de Yom HaKippurim. Beit HaMikdash, Olam Haba, c'est le 8e jour de la création. En d'autres termes, on nous dit ici, Shlomo, cette grandeur, tu dois l'atteindre dans cette dimension du 8e jour. Tu dois terminer ton travail dans le 7e, construire le Beit HaMikdash et rentrer dans le 8e jour. C'est de cette grandeur-là dont on parle. Ce n'est pas pour rien que le 8 est le symbole de l'infini. ומתוק האור וטוב לעיניים לראות את השמש כי אם שנים הרבה יחיה האדם בכולם יסמר ויזכור את ימי החושך כי הרבה יהיו כל שבאבל שמח בחור בילדותך ויטיבך ליבך בימי בחורותך ואלך בדרכי ליבך ומראה עיניך ודע כי על כל אלה יביאך אלוהים במשפט. Tout ce que tu as pu faire, ben bagilgulazé, ben bagilgulim acherim, ça doit t'amener à maintenant grandir. Mais une fois qu'on a dit ça, Shlomo peut conclure son livre en disant dans son chapitre 12, Sof davar akol nishma, et Elohim yira, ve'et misfotav shemor, kize kol ha'adam. Sof davar akol nishma, au final, c'est quoi? Tu aurais pu penser que rien n'avait d'importance. Je t'ai expliqué pendant 11 chapitres quelle était l'importance. Et tu sais pourquoi? Parce que la seule chose qui a véritablement de l'importance et qui va donner de la force et de l'importance à tout le reste, c'est « Et Elohim yira ve'et mitzvotav shemo, kizeh kol ha'adam. » Lis-toi à Dieu. Voilà la seule véritable raison qui, grâce à elle, va donner une force et une raison à tout ce que tu vas faire. Parce que si tu es conscient que tout ce que tu fais, c'est pour te lier à Dieu, eh bien, tout ce que tu fais prend de l'importance. Et maintenant qu'on a terminé en disant cela, eh bien, j'ai un chov, j'ai un petit chov envers vous. Eh bien, c'est, on a dit, revenir au chapitre 3. Parce que Shlomo, on a dit, il a passé en revue toute l'histoire. En bataille, il a passé en revue l'histoire. Pour bien comprendre qu'on y est. On y est. C'est maintenant, c'est demain. En bataille. Shlomo HaMelech va donner une liste de 28 étimes. Quand il te dit, le kol, je reprends le verset au chapitre 3, on te dit, le kol zman veet le kol chefet sachet hashamayim, mais ensuite il te dit, et comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça, et ça veut dire un moment. Il y a 28 étimes, 28 temps. J'ai reçu de mes maîtres que si on fait un petit calcul mathématique très fastoche, le monde dans lequel nous sommes le septième jour doit durer 6000 ans. Donc tu prends 6000, tu divises par 28. Jusque-là, tout va bien. Tu arrives à 214. Et donc, il s'agit maintenant de tout simplement séparer les périodes en temps de 214 ans, plus ou moins. Et quand tu fais le calcul et que tu regardes, c'est incroyable comment ça tombe bien. Et c'est fondamentalement important parce que ça nous permet de savoir exactement quand est-ce qu'on va construire le Beth Amikdash. Eh oui, puisque le dernier temps s'appelle Et Shalom. Ve Shalom, Ze Sukat Shalom, Ze Beth Amikdash. Et donc, si je peux faire avec ce calcul, je peux savoir quand va être construit le Beth Amikdash. Eh oui, en fait, quand on regarde ces étimes, eh bien, on se rendra compte que les choses sont extrêmement intéressantes. Le premier s'appelle Et Laledet. Bah, être la Ledette, les 214 premières années, c'est non seulement la naissance de Adam Arishon, mais c'est surtout la naissance de Chet, qui va être le premier Ben Adam. Ensuite, dans le deuxième temps, on a ce qu'on appelle être la Mout. Être la Mout, c'est la première fois où quelqu'un va être tué. Ensuite, on a être la Taat, de planter quelque chose. C'est la première fois où, ça y est, Akadosh Baruch Hu va nous permettre de planter une ville, si je puis dire. On va commencer à faire la culture humaine. Ensuite, on a « et la akornatua », enlever tout ce qui pose des problèmes. C'est là où il y a le premier meurtre, l'émer qui va tuer Caïn. Ensuite, nous avons le « et la arog », puisque maintenant que ça y est, « vatimale aretz ramas mipenem »,« et l'irpo », de « ripouille », voilà « noir » qui arrive. Noir qui arrive, Vezel Yenachamenu, Mima Asenu, Mitsevon Yadenu. Ensuite, on a Etlifrotz. C'est quoi Etlifrotz? C'est les enfants de Noir, à qui on va dire Pérou verra vous. Etlifkot. C'est après le déluge, donc évidemment, il fallait repeupler la terre. Etlifnot, Slecha. Etlifnot, Kodemkol. C'est Migdal Bavel. C'est la construction de la tour de Bavel. Tout ça, ça rentre dans les timings. Attention, hein, vous n'avez qu'à calculer. Hein. Et Lifkot, le temps de pleurer, c'est d'or justement du Piloug après Migdal Bavel. Et Lisrok, c'est Avraham ve Yitzhak. C'est bidouk à ce moment-là que Aolam Tzochek avec Yitzhak. Et Sepod, Misped, à Misped Agadol chez Yaakov Avinu, ve Savdu Oto. Ensuite, Et Rekod, Maze Et Rekod, c'est pas un Rekod. Et Rekod, on danse. Meditiat Mitzrayim, Matan Torah, tout ça, c'est à ce moment-là. Et la Shlich Avanim. Shlichat Avanim, c'est qu'il y a en shum davar chashuv, en shum seder, ze yemesh fot ashoftim, en melech be Israël, ça revient tout le temps dans le livre. Ensuite, Erkenos Avanim, il est temps de rassembler les choses. C'est Binyan Bet Amikdash. Et la Chavok, achibouk shel hanevoa, toute la période du premier Bet Amikdash. Ensuite, et le Rachek Mechabek. Ce chibou qui s'en va, c'est la période où il y a la destruction du premier temple. Et les vakesh. Mazé les vakesh. Mvakshim, nevoa, nevakshim Torah, mevakshim atchashem. Zehé, baïtcheni. Et les abed. On a perdu Jérusalem. C'est la destruction du deuxième temple. Et l'ishmor. C'est le moment où on va écrire la Mishnah. L'ishmor. Et la shlich. Zegalout Edom. Am Israël, Nishlach le Kol Akivunim. Et l'Ikroa, Zegalout Ishmael. Et, c'est l'époque où les musulmans ont commencé à dominer le monde. Et l'Itfor, c'est les Géonim, qui ont commencé à en mettre en place le Talmud. On a signé, fini le Talmud. Et la chachot, c'est le temps où on ne parle pas, on chuchote. C'est les savoraïm. On ne parle pas beaucoup. Et le daber. Ah, là, il faut parler. C'est Yemé Arishonim, vers la Renaissance. Attends, ça ne s'arrête pas. Et le yov. Là, c'est le si de la Renaissance, c'est le 16e, le 17e siècle. C'est la période, la belle période, si on veut. Et l'isno. Et l'isno. Ah bah, et l'isno, mon ami, c'est pas compliqué, hein. Ça commence à la fin. C'est le 17e, 18e. Ouais, tu veux compter le nombre de pogroms qu'il y a eu à ce moment-là pour le peuple juif. Là, c'est bon, la Sina, elle était là, quoi. Et milchama. L'avant-dernière période, c'est Et milchama. Et elle commence, d'après ce calcul-là, en 1808. En 1808, c'est la campagne de Russie, de Napoléon. Et c'est les grandes guerres de notre génération. Après, il y aura la Première Guerre mondiale. Après, il y aura la Deuxième Guerre mondiale, évidemment. Tout ça dans cette période-là. C'est Et milchama. Et t'arrives au dernier Et. Ah ah! Le dernier Et. C'est pas mal, ça. Ouais. Eh bien, le dernier Et, quand tu fais ton petit calcul... Bon, évidemment, ce n'est pas 214 exact. Hein. Il y avait une virgule, donc il faut rajouter à chaque fois, mais l'homme chané. Le dernier Et, c'est Et Shalom, comme on a dit. Shalom, c'est Bet Amigdash. Fei b'shalem souko. B'monato mitzion, shalem souko, c'est Bet Amigdash. Donc, d'après ce calcul, eh bien, les amis, il semblerait, sans vouloir vous mettre la pression, qu'en 2024 commence Et Shalom, c'est-à-dire le moment où on peut construire le Bet Amigdash Bekef. Ça tombe super bien parce que c'est exactement la date de la bar mitzvah de mon fils. Donc moi, ça me va de faire la bar mitzvah au Bet Amigdash. Dans un même temps, je te dis tout de suite que tous les rabbins qui ont toujours fait des calculs pour savoir quand on allait construire le Bet Amigdash sont toujours plantés. Donc, il y a très forte chance que ce que je dis, ça soit pas vrai. Et que je me plante aussi. Mais tu sais quoi? Peut-être que je me planterai pas. Et peut-être on va décider de construire le Bet Amigdash. Et peut-être ça sera Béhémet en 2024. C'est-à-dire, je sais pas si t'as compris, dans 4 ans. Hein. Ça veut dire, c'est rien. T'as prévu des vacances plus loin que ça, quoi. Ça y est. On est dans une génération où on est redevenu grand. Et donc, dans cette génération qui est redevenue grand, il est temps de pouvoir réaliser la fin de Kohelet, qui nous dit, je répète le verset, parce que la tradition juive a pris l'habitude de répéter ce verset-là, « Sof davar akol nishma et ha-Elohim yera ve et mitzvotav shemor kize kol ha-Adam » On pourra enfin recommencer les mitzvot au Bet HaMikdash, « Venire et Hashem, panim bepanim » À ce moment-là, et bien, on pourra passer au 8e jour, le Yom Shekulo Shabbat, Mikol Haolamim. Moadim le Simcha, le Chag Sameach, à tout le monde!